une moitié du taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français, pour vraiment inciter à investir en France pour les entreprises. Et une troisième mesure, c'est également de revaloriser les salaires des Français de 10%, tout simplement en baissant les cotisations salariales, ce qui ne coûtera rien donc aux chefs d'entreprise, mais permettra à chaque salarié de gagner en pouvoir d'achat. Notre programme est entièrement chiffré. Nous allons obtenir notamment des recettes supplémentaires. Je pense par exemple au renforcement de la lutte contre la grande fraude fiscale et sociale. Mais il y a aussi d'autres mesures pour faire des économies. Nous voulons par exemple taxer les multinationales qui ne payent pas d'impôts en France, ce qui permettra de renflouer les caisses de l'État.
Julien Châtel, porte-parole en Bretagne de Nicolas Dupont-Aignan. Et alors que nous sommes dans les dernières semaines avant l'élection d'un nouveau président, un des derniers grands moments du quinquennat de François Hollande, la promotion de Pâques de la Légion d'honneur, avec plusieurs Bretons distingués ce week-end. D'abord François Pinault, l'industriel et propriétaire du Stade Rennais, décoré de la Grande Croix de la Légion, mais également deux navigateurs qui deviennent chevaliers de la Légion d'honneur, le Rennais Thomas Coville, recordman du Tour du Monde en solitaire, et Armel Lecléache, vainqueur du dernier Vendée Globe.
Et enfin une deuxième victoire en 2017 pour le Stade Rennais.
Les Rouges et Noirs ont battu Lille hier 2-0 pour la 33e journée de Ligue 1. Guingamp s'est adjugé Toulouse 2-1. Mais Lorient s'incline 2-0 à Montpellier. Au classement, Guingamp est 8e, le Stade Rennais 9e et Lorient toujours 18e. En volleyball, le Rennes Volley 35 continue. Victoire 3-7-1 hier soir contre Orange en match d'appui des quarts de finale des play-offs de Ligue B. Les Rennais affronteront en demi finale le Plessis Robinson. La 33e et avant-dernière journée de National 1 masculine de basketball avec la défaite 102-97 de l'Aurore Vitré contre Caen et de l'URB 35 à Épinal 111-62. Les deux clubs bretons sont officiellement relégués en National 2. Et puis sur le Tour du Finistère cycliste, le succès de Julien Loubet de l'Armée de Terre devant Julien Simon de Cofidis. Demain, place au Trobroléon.
Retrouvez toute l'info de France Bleu sur francebleu.fr.
francebleu.fr.
Et côté météo, donc Daniel, un temps à aller chercher des œufs dans le jardin.
Complètement, et en tout cas sortir de chez soi, aller dans le jardin, c'est ce qu'on va faire dans un instant avec Philippe Munier. Mais même s'il y a quelques petits nuages ce matin, ils vont laisser la place aux belles éclaircies dès cette matinée. On aura un soleil généreux avec un ciel tout juste parsemé de quelques bons nuageux qui se feront d'ailleurs de plus en plus discrets. Nord-nord-ouest, c'est l'orientation du vent. Alors c'est pour ça que on sent encore que voilà, on n'est pas dans des températures chaudes. Au nord de la région, on aura du mal à dépasser 13 degrés, mais on aura des températures quand même proches des normales de cette mi-avril, avec 16 degrés sur le sud, 16 par exemple attendu à Vannes, il fera 15 à Rennes cet après-midi, 15 également à Saint-Calguildo et à Erquy, où nous serons en direct à partir de 10h. Avec Félix Legrand pour la fête de la coquille Saint-Jacques. Et si on regarde sur les cartes côté trafic, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. On roule tout à fait normalement sur les principaux axes routiers de la région. Attention quand même cet après-midi, avec les nombreuses fêtes organisées dans la région. Peut-être des risques de bouchons, évidemment. Et puis, n'hésitez surtout pas à intervenir si sur votre itinéraire, vous avez un véhicule mal positionné sur une des voies qui déborde, et puis peut-être des objets, des encombrants comme on dit sur la chaussée qui oblige à donner un petit coup de volant, tout ça, ça peut être dangereux. Et avec votre intervention au 02 99 67 35 35, ça nous permet de vous informer, vous qui circulez actuellement sur la Bretagne. Nous, on fait la route ensemble.
On fait la route ensemble avec les remorques Cameray, constructeurs et concessionnaires multimarques, remorques pour les professionnels et les particuliers, à Plerguet, Noyal-sur-Vilaine et sur www.remorque-cameray.com.
À 9h10 sur France Bleu Armorique, ouvrons ouvrons la barrière du jardin. Nous allons encore aujourd'hui vous répondre à vous qui avez envie de semer votre persil et à l'avoir tout beau sur le balcon, mais aussi les petits trucs, les astuces pour faire en sorte que votre jardin soit plus beau, que vos légumes soient plus merveilleux. Et notre magicien expert en la matière, c'est bien sûr Philippe Munier. Bonjour Philippe.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Voilà, un bon dimanche avec vous, bien sûr, en ce week-end de Pascal. Le jardinier garde toujours un œil sur son jardin.
Bah oui, évidemment, de toute façon, il va falloir aller piétiner dans le jardin, vu qu'il va falloir courir après les petits œufs qui sont laissés cachés partout. Donc forcément, on est obligé d'aller dans le jardin. C'est dommage, on va être obligé encore de voir les fleurs magnifiques. On va être obligé de piétiner ou faire attention à ne pas piétiner les bourdons en train de butiner les pissenlits. Voilà, ça va être un boulot encore.
Là aussi, on va voir, en gâchant les œufs, que tiens, là, il y a une petite branche qui est cassée. On va pouvoir encore le sublimer, ce jardin. Et bien sûr, vous posez toutes vos questions. C'est parti au 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Il a été rapide pour nous joindre ce matin, Robert, qui est à Plumergat. Bonjour Robert.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Alors, une question pour Philippe.
Oui, je possède une serre à cactacées et j'utilisais de la bouillie bordelaise une fois l'an, dite bio, mais j'aimerais bien, je ne suis pas certain de l'efficacité et en plus ça tache mes plantes et j'aimerais bien la remplacer par des huiles essentielles car j'entendais souvent Philippe en parler. Et également, si on pouvait utiliser ces huiles essentielles pour lutter contre les cochenilles.
Bon, bah, y a beaucoup de questions, mais on va essayer de répondre.
Alors, le problème des cactées, c'est qu'elles ne supportent pas l'huile. Et comme on est obligé pour faire des traitements avec des huiles essentielles, de mélanger l'huile essentielle avec une huile minérale ou végétale, que je préfère, hein, huile genre huile de colza, de toute façon, ça fait de l'huile qui va être apportée sur les plantes succulentes, et ça, elle ne supporte pas. Donc, malheureusement, l'intérêt effectivement très intéressant, très fort des huiles essentielles pour les traitements au jardin se limite à quelques végétaux comme ça, donc les cactées, les palmiers et les choux particulièrement, hein, pour le potager. On ne peut pas utiliser d'huile et donc on oublie ce type de traitement. Donc d'accord. Il faut continuer malheureusement avec la bouillie bordelaise, et je dis bien malheureusement parce que ça met du cuivre. Alors, tant que c'est dans des pots, c'est un petit peu moins gênant, c'est pas le sol, mais de toute façon, un beau jour, le pot, vous allez le jeter quelque part quand vous allez rempoter. Ce cuivre, il va se retrouver dans l'environnement et c'est dommage.
Et ça,
je comprends. Donc, ce à quoi il faut faire très attention, c'est de bien diminuer les doses. Les doses qui sont marquées sur les emballages sont les doses maximales autorisées. Ce ne sont pas les doses optimales. Donc, on peut sans aucun problème diviser déjà par quasiment 50% et on n'est pas loin de la dose optimale. Donc, déjà, ça permet de. Voilà. Ouais. Et puis, éventuellement, peut-être, vous pouvez aussi utiliser un produit qui ne tâche pas, qui est un petit peu plus puissant, donc on en met encore un petit peu moins, et qui s'appelle l'oxychlorure de cuivre, hein, qui est très efficace contre contre pas mal de champignons, hein, qui est une action beaucoup plus choc, beaucoup plus forte. C'est moins dans le temps, mais c'est une action plus choc. Et l'avantage, c'est que c'est liquide, donc c'est facile à doser. C'est très, très puissant, donc on en met encore moins. Et du coup, comme c'est un liquide transparent, ça ne tâche pas. Vous voyez,
j'ai noté.
Et sinon, en ce qui concerne les cochenilles, moi, je serais vous, je passerais plutôt sur de la lutte biologique. Donc, en achetant, et ça, c'est relativement facile à trouver dans les jardineries, en achetant des petits insectes, en général, ce sont des coléoptères. Vu que c'est dans une serre, il n'y a pas de problème, ils ne risquent pas de partir à l'extérieur. Il faut faire attention pendant tout le temps où les petites coccinelles vont bouffer les cochenilles, parce qu'elles ne sortent pas, parce que dans certains cas, c'est des coccinelles, comment dirais-je, chinoise, asiatique, et qui donc ont un gros, très gros intérêt, c'est d'être très vorace quand il s'agit de manger les pucerons et les cochenilles. Un gros inconvénient, c'est qu'une fois qu'elles ont fini de manger les pucerons et les cochenilles, elles attaquent les larves des coccinelles indigènes. Mmh. Donc voilà. Donc ouais. Tant que c'est dans une serre bien fermée, une fois qu'elles ont fini leur boulot, éventuellement, vous pouvez les remercier en les écrasant.
Bon, ça, d'accord.
C'est quand même pas sympa, mais bon, voilà. Mais sinon, il y a d'autres. Faut regarder. Vous avez deux monstres, si je puis dire, de la lutte biologique. Un belge et l'autre qui est néerlandais. Il y en a un qui s'appelle BioBest et l'autre qui s'appelle Copert. K-O-P-E-R-T. Et BioBest, oui. BioBest. Hein, B-E-S-T. Ces deux-là, vous allez voir sur leur site. Vous avez toute la gamme de leurs produits, donc de leurs élevages, de petits bestioles auxiliaires. Et ça vous permet de choisir celui qui correspondra le mieux à vos cochenilles sur vos cactées.
Et ben voilà, Robert, d'accord. On a répondu.
Écoutez, je vous remercie beaucoup.
Bon dimanche, à bientôt.
Vous de même.
Au revoir.
Au revoir.
Marcel, à Rennes. Bonjour, Marcel.
Bonjour à tous.
Alors, des soucis, Marcel.
Oui, comment se débarrasser des chenilles qui envahissent le buis?
Ah, ça y est, vous en avez.
Eh oui.
Alors, première chose. Il faut, si vous avez beaucoup de buis, il faut surveiller attentivement les buis parce que ces chenilles sont très voraces. Et donc la
pyrale
du buis, elles sont très voraces. Elles peuvent vous bouffer la totalité du buis et il ne s'en remettra pas. Donc il faut être vraiment bien surveillé et être très efficace. Alors quand elles sont toutes jeunes, toutes petites, il suffit simplement de, si je puis dire, de taper le buis pour les faire tomber. Une chenille, en fait, elle est là pour boulotter le plus vite possible, grossir le plus vite possible pour devenir le plus vite possible une chrysalide qui lui viendra un papillon. Ça, c'est son boulot. Dès qu'on lui demande de marcher, de rechercher, à remonter, etc., ça, elle ne sait pas faire. Ça, elle dépense de l'énergie alors qu'elle est programmée pour accumuler de l'énergie. Donc, simplement, quand elles sont toutes petites, le fait de les faire tomber au sol, elles ne vont pas retrouver forcément la route du buis. Hein, et même dans beaucoup de cas, elles vont essayer de commencer à monter puis elles vont pas y arriver. Et en plus, au sol, il y a des fourmis, il y a des perce-oreilles, il y a tout un tas de bestioles qui vont s'occuper de leur cas très rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est quand elles sont toutes petites. Dès qu'elles commencent à grossir, elles s'accrochent. Alors là, on peut passer, et tant qu'elles ne sont pas trop grosses, alors de mémoire, il y a 12 stades, je crois, de grossissement de la pyrale. Donc du stade 1, donc à la naissance, jusqu'au stade, je crois, 6, elles sont très sensibles aux bacilles de Thuringe. Et donc un produit à base de bactéries, hein, et donc qu'on pulvérise sur le buis, sur la partie qu'elles vont manger, parce qu'il faut absolument qu'elles ingèrent ça par la bouche. Et quand elles ont ingéré ça par la bouche, ça leur descend dans l'estomac ou dans l'intestin, ça fait des espèces d'aiguilles qui leur perforent les intestins. Ça doit être très désagréable. En tout cas, elles en meurent et l'affaire est réglée. Mais par contre, dès qu'elles sont suffisamment grosses, elles deviennent tolérantes. Elles arrivent à résister à ça. Donc tant qu'elles sont Donc suffisamment petite encore, vous pouvez mettre du bacille de Thuringe. Et après, la seule solution, c'est ramassage à la main.
Oh ouais. Là là.
Ouais. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup.
mission impossible. Est-ce qu'il faut les tailler, les buis?
N'allez pas leur mettre un stress de plus sur la tête quand même. S'ils peuvent être taillés un petit peu, faites-le. Mais sachant que les femelles de pyrale rentrent dans les buis pour pondre, donc les pondes sont au cœur du buis. Il faut vraiment, il faut être deux. Il y en a un qui écarte le buis, l'autre qui ramasse à la main, qui écrase. Mais il y a plus d'autre solution après. Hein,
C'est pour ça qu'il faut intervenir dès le début.
Il faut aller très très vite. Et je m'adresse à tous les auditeurs là. Si vous avez un buis dans le jardin, quelle que soit la partie de Bretagne où vous êtes, parce que maintenant on est à peu près sûr qu'elles sont déjà en Côte d'Armor. L'année dernière, elles n'y étaient pas. Cette année, elles y seraient. Allez dans les buis, ouvrez les buis, allez dans le cœur du buis, regardez, surveillez attentivement, parce que c'est vraiment une cochonnerie et que votre buis, s'il est infesté, il va mourir. Hein. Et puis, c'est le vôtre et puis celui des voisins, parce que les petites bébêtes, elles se reproduisent vite. Voilà.
Donc, il vaut mieux guérir. Prévenir. Voilà, merci beaucoup.
On ne peut pas guérir.
Bon, en tout cas, merci pour votre question, Marcel.
On vous souhaite un très
bon dimanche. Jean-Luc est à Donloup. Bonjour, Jean-Luc.
Oui, bonjour. Je vous appelle, je voudrais scarifier ma pelouse. Et je vais mettre un engrais. Alors, je ne veux pas mettre de terreau ou de compost parce qu'on a des chats, on a plein de chats aux alentours. Et ils sont un plaisir de gratter dedans puis foutre leur crotte. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme terreau, comme engrais? Allô?
J'avais un temps de réflexion parce que je vois pas les chats en train de gratter du compost, de la terre, oui, la terre fraîchement tournée.
Non, je mets du terreau noir, là. Du terreau, J'en avais mis devant, j'étais rempli de crottes de chat.
Alors oui, un terreau peut-être, mais pas un compost.
Ah, pas un compost, d'accord.
C'est deux choses vraiment différentes. Hein. Le terreau, c'est un produit artificiel, hein, complètement artificiel, fabriqué dans des usines à base de tourbe, à base d'un petit peu de compost, à base de déchets de bois, de broyat de bois, de broyat de mousse, etc. Et effectivement, ça doit être très doux pour les chats. Par contre, le compost, les chats sont pas fous. Ils savent que dans un vrai bon compost, il y a énormément de bactéries, de champignons, etc. Et s'ils se mettent à gratter dedans pour aller y mettre leur déjection, ça risque de, parce que les chats sont très très sensibles à leur propreté, donc ça risque de les salir. Donc dans un compost, j'ai jamais vu un chat aller faire ses besoins. Hein, si vous avez un bon compost, bien un compost maison, c'est l'idéal, hein, quand on peut le faire soi-même, c'est ça rend le top. Mais sinon, si vous pouvez trouver un bon compost pour la pelouse, un compost de déchetterie, c'est très bien. Hein, les composts de déchetterie ont l'avantage d'être tous à un pH à peu près neutre, voire même très légèrement basique, ce qui est très bien pour nos terres bretonnes qui sont toutes légèrement acides. Donc ça permet de compenser. Hein. Et là, vous ne verrez jamais un chat pondre dans ses... faire ses besoins dans un compost de déchetterie.
Voilà. Bon, eh ben,
c'est un très bon produit. Sinon, il y a des très bons produits. Alors, il faut choisir des engrais organiques, et je précise bien organiques, gazon. Et il y a quelques produits très intéressants dans les grandes jardineries plutôt. Hein. Les petites jardineries n'ont pas tous les produits, c'est normal. Hein. Et choisissez vraiment... Le plus cher, parce qu'en général c'est le meilleur, c'est encore à peu près, pour l'instant c'est encore à peu près vrai.
Voilà.
D'accord.
Bon, Jean-Luc, ça a répondu à votre question?
Oui, merci.
Bon, et bonne journée et merci, bon dimanche. Au revoir. 02 99 67 35 35. Profitez-en. Les lignes sont à votre disposition et c'est libre donc pour vos questions jardinage à Philippe Meunier.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
France Bleu.
La semaine prochaine, dans le Moukado, on va au Ponant à Passé pour rire en toute liberté avec Christophe Alévèque.
Pas mal, la France a mal, la France a mal à son derrière. Terrorisme, menace d'attentat, aïe aïe aïe, j'ai peur.
On chante à l'unisson au Music Hall de Rennes, jeudi 27 avril, avec le populaire et enthousiaste Christophe Maé. Le Moukado, joué tous les jours à partir de 16h sur France Bleu Armorique.
Le Moukado, vous jouez, vous gagnez et vous sortez. Tout l'esprit de la Bretagne sur France Bleu Armorique.
Anne-Marie qui vous accueille au 02 99 67 35 35. Si vous venez d'arriver avec nous, c'est Jardin Bleu avec Philippe Meunier. Et si justement, tiens, il y a une petite question qui vous tracasse sur une de vos plantes dans votre intérieur ou sur la terre de votre jardin, sur des légumes que vous voudriez essayer, eh bien, tous les conseils sont pour vous. Dépêchez-vous car à partir de 10h, eh bien, ça sera terminé. D'ici là, Bruce Springsteen avec Streets of Philadelphia.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Ain't no angel gone.
slippy ski. When night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
De Philadelphia avec Bruce Springsteen sur France Bleu Armorique, 9h26.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et on vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée avec nous. On essaie de vous aider à avoir de plus belles plantes et végétaux chez vous. Maryse est avec nous depuis Landevant. Bonjour Maryse.
Bonjour.
Alors?
Alors, ma petite question, je viens de refaire faire ma pelouse, donc on a tout retourné, la terre et tout ça, ça a été ressemé, et j'ai plein de fourmis dans la pelouse, avec, ça fait plein de petits trous, et les fourmis sortent. Comment je peux faire pour irradier toutes ces fourmis?
Alors déjà, il ne faut pas chercher à les éradiquer, parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont une utilité. La fourmi n'est pas une... Quand elle rentre dans les maisons, elle est désagréable, mais il n'y a que les fourmis tropicales qui sont vraiment... peuvent être parfois dangereuses. Les fourmis européennes ne sont pas dangereuses, même celles qui sont venues d'Amérique du Sud et qui ont envahi l'Europe ne sont pas dangereuses non plus, même si elles ont envahi toute l'Europe. Mais donc, voilà. Ce qu'il y a, c'est que si elles arrivent à installer tranquillement leur fourmilière, c'est qu'il fait très sec, il ne pleut pas du tout assez, loin de là. Et donc, oui. elle profite d'un temps magnifique pour pouvoir s'installer. Sachant que dans le sol, elles ne font pas de dégâts. Au contraire, en général, elles améliorent le sol, sauf qu'il y a des chances qu'elles aient boulotté quand même les graines de votre gazon. Alors, pour les enlever de là, la seule solution la plus simple, c'est d'arroser votre gazon. Il faut arroser tous les 2-3 jours, copieusement. Il vaut mieux arroser une fois par semaine copieusement que tous les jours très peu. Et en arrosant copieusement, vous insistez un petit peu plus lourdement sur les fourmilières, de manière à bien noyer les galeries. Elles iront voir ailleurs s'il fait beau, parce que là, du coup, il se mettra à faire trop mouillé pour elles. Et c'est aussi simple et aussi bête que ça. Et puis, si oui. vous voyez un pivert descendre sur votre pelouse pour se balader, lui faites pas peur, parce qu'il descend pour manger les fourmis.
D'accord, ben, je vous remercie beaucoup et vous faites une émission super géniale.
Ah, mais vous êtes super géniale aussi. Merci Maryse.
Merci.
Bon dimanche, au revoir.
Bon dimanche à vous, joyeuse Pâques.
Merci vous aussi. Dany est à Saint-Jacques-de-la-Lande. Bonjour Dany.
Bonjour Philippe. J'appelle.
Et Daniel. Non, moi je suis pas là. allez-y,
on vous écoute.
J'appelle aussi, je viens d'acheter un Acer palmatum ou érable du Japon.
Tout à fait, oui.
Et je veux le planter, et est-ce qu'il faut le planter uniquement dans de la terre de bruyère, ou on peut mélanger la terre de bruyère avec une autre terre?
Alors, de toute façon, il vaut mieux mélanger un petit peu, au minimum à raison d'un tiers, avec la terre de votre jardin, de manière à ce qu'il puisse s'habituer. Je suppose que vous allez le mettre en pleine terre ou vous le mettez en pot?
Je le mets en pleine terre.
D'accord, donc si vous le mettez en pleine terre, il faudra bien qu'à un moment donné les racines aillent dans la terre de votre jardin, donc il vaut mieux que dès le début ils s'y habituent. Donc moi je propose en général un mélange fait d'un tiers de tourbe et pas de terre de bruyère, parce qu'en fait la terre de bruyère c'est de la tourbe avec du sable. Donc vous pouvez très bien, si vous regardez les prix, vous allez voir, vous allez tout de suite faire le calcul, il vaut mieux acheter un sac de tourbe, avoir du sable, voilà, si on a quelqu'un qui fait des travaux à droite à gauche, de prendre un bon sable, alors pas un sable de mer évidemment avec du sable, du sel, mais un sable de maçonnerie, voilà. Mm-hmm. Et un tiers donc de tourbe, hein, de tourbe blonde, un tiers de ou tourbe blonde et brune mélangée, après ça dépend si vous voulez acheter deux sacs, un tiers donc de sable et un tiers de terre de votre jardin, vous brassez tout ça et vous plantez votre acerpalmatum dedans.
Mm-hmm. Et sinon faut l'arroser souvent ou pas?
Alors c'est la première année, oui, il faut l'arroser. On va dire que au moins tous les 10 jours, il faut lui apporter. Alors, il est grand comment?
Dites-moi. Ah bah, il fait 50 cm, hein, c'est un plant.
D'accord,
quoi.
Donc, c'est un petit bébé. Ok. Donc mais de toute façon, une fois tous les 10 jours, peut-être même un petit peu plus quand c'est un petit plant, parce que ça dessèche plus vite. Il faut arroser, mais en fait, il faut mettre son doigt dans le support. Si c'est sec, il faut que j'arrose. Si c'est encore humide, j'arrose pas. C'est aussi bête que ça. Mais la première année, pour qu'il s'installe bien, il faut l'arroser régulièrement. Après, les autres années, théoriquement, il est installé, on lui fiche la pelle, la pluie du ciel devrait lui suffire. Sauf des années quand même comme celle-ci, où je crains que certains jeunes plants aient un petit peu de mal à passer la fin du printemps si ça continue comme ça.
Oula, ça me fait peur.
Ouais.
Bon. En tous les cas, merci pour vos conseils et bonne journée de Pâques.
Eh ben, bonne journée à vous, Dani.
Au revoir.
Brigitte, à Lorla. Bonjour, Brigitte.
Et je vous embrasse tous les deux.
Eh ben c'est gentil, oh, on vous embrasse. Nous aussi on vous embrasse.
Voilà ma question, j'ai mis des gravillons, des gros gravillons, mais avant de mettre les gravillons, mon gendre m'a mis un plastique et il a fait des trous dedans pour que l'eau s'en aille au cas où il pleut. Mais j'ai toujours de l'herbe qui repousse, donc je voudrais savoir qu'est-ce que je pourrais mettre sur ces gravillons, les pulvériser, mais avec quoi? Parce que lui, il a des abeilles, il a 8 ruches, et je voudrais pas mettre du désherbant.
Ah non.
Ah ben non, ça serait... De toute façon, je vous le dirai pas. Voilà. Je vous en parlerai même pas. Il y a des mots que je ne connais plus.
Ah non.
Hein, voilà. Bon. Donc, le problème, c'est la mise en œuvre à la base, de mettre un plastique avec des trous, ben par les trous les herbes sortent. Le problème c'était les trous. Dans ce cas-là, on met des géotextiles qui sont des matériaux assez rigides, un petit peu cartonneux, mais qui laissent passer l'eau, donc on n'a pas besoin de faire des trous. Ils ont une structure assez dense qui fait que les herbes ont beaucoup de mal à passer. Donc si on fait un fond de forme correct, hein, c'est-à-dire que si on travaille bien la surface du sol, dessus on installe le jeu textile et dessus on met des cailloux, théoriquement on est tranquille pour au moins 5 ans minimum. Donc voilà, c'est pour ça si vous recommencez un jour, sachez qu'il existe des produits spécifiques et que voilà. Donc là, chaque fois qu'il y a un trou, il y a une plante, c'est normal. Je dirais bien que en tout début de saison comme ça et sur des zones assez limitées, parce que c'est des trous, il y en a pas 3000 non plus. Sur des jeunes plants en train de pousser, on peut pulvériser un désherbant à base d'acide acétique, c'est-à-dire en fait du vinaigre. Hein, et vous pouvez.
L'acide.
Alors c'est d'acide acétique, c'est le vinaigre, hein, tout bêtement.
Ah, du vinaigre.
Voilà, vinaigre blanc. Alors théoriquement. C'est pas encore homologué en tant que produit, mais comme c'est un produit dit à faible impact, un produit de base, on a le droit de le conseiller. Donc je vous le conseille. Mettez du vinaigre blanc dilué à 30%, ça suffit largement, et vous pulvérisez. Mais je précise bien, ça se pulvérise sur des jeunes plants en train de pousser. Si c'est un gros plant déjà établi, ça ne marche pas. Il faut que la plante soit en train de pousser.
Hein. Oui, parce qu'à chaque fois, je suis obligée de défaire les cailloux, enlever les racines des machins, et puis remettre les cailloux. Ça commence à me saouler, parce que j'ai mis ça pour justement être tranquille, pour ne pas avoir de gadou devant chez moi, mais je suis toujours en train d'arracher les herbes.
Alors, il y aurait une solution aussi qui consisterait à chaque fois que vous écartez les cailloux, au lieu de n'écarter que les cailloux et d'enlever l'herbe et de rien faire de plus, boucher le trou avec, vous achetez du géotextile dans un magasin, alors soit les jardineries, soit les magasins pour les travaux publics, tous les gens qui vendent des tuyaux de plastique, tout ce qu'on met dans les tranchées. Donc, ils ont des géotextiles de très bonne qualité et à des prix très intéressants. Et du coup, à chaque fois, vous remettez un géotextile sous votre plastique. Et comme ça, ça va bloquer la croissance, les croissances des herbes suivantes.
Hein. Oui, ou alors vous bouchez les trous. Faire, c'est de retirer tout.
Ben moi, je trouve aussi. Hein. Mais bon, j'osais pas vous le dire.
De rabattre tout, de mettre le machin directement et de remettre les cailloux dessus.
Voilà. Je pense que ça serait la meilleure solution.
Ben parce que là, vous allez être embêté.
Parce qu'il n'y a pas une énorme surface, hein, donc je pense que ce serait mieux de faire peut-être ça.
Bon, tout à fait.
Bon, voilà, je vais déjà essayer avec du vinaigre. Mais si je vois que ça marche pas, ben je vais...
Et n'en mettez pas trop, hein, parce que de toute façon, un désherbant, quel qu'il soit, le problème, c'est pas la molécule, hein, c'est la quantité.
D'accord.
Comme disait un monsieur qui s'appelait Paracelse, il disait ça il y a très longtemps, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc voilà, si on en met trop, on empoisonne son sol, on empoisonne sa terre, on empoisonne les voisins, et on s'empoisonne soi-même.
Ouais, donc voilà, prudence. D'accord. Et puis sinon, un peu de courage, et puis vous recommencez tout. Bah, on ira vous aider.
Bon dimanche. Beaucoup. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques.
Eh ben nous aussi. Au revoir.
Merci, c'est gentil.
On fait une pause et puis on retrouvera tout à l'heure notamment Françoise qui a des problèmes avec ses lilas.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
France Bleu.
Le week-end, je me balade chez vous. Si vous organisez des rendez-vous festifs, culturels, sportifs, humoristiques, dites-le nous et nous ferons la fête tous ensemble.
Retrouvez Félix Legrand, le baladeur de France Bleu Armorique, le samedi de 10h30 à 11h et de 11h30 à midi, le dimanche de 10h30 à 11h.
Tous les mois, France Bleu et le nouveau magazine Seringo nous emmène en balade à la découverte d'une ville ou d'une région remarquable de notre douce France. Des villes où il fait bon vivre, en passant par les plus beaux terroirs, Seringo met une région en vedette. Histoire, découverte culturelle ou gastronomique, bonnes adresses.
Chaque mois, le dossier plaisir et découverte du magazine Seringo. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
Hé, papy, c'est quoi ça?
Un appareil photo.
Mais les photos, ça se prend avec un téléphone.
Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache.
Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis.
France Bleu Armorique.
Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. À toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. La vie t'aurait suffi. La vie t'aurait suffi. Sublime et silence, autour de toi tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches. Pourtant tu fuis. La vie t'aurait suivi. t'aurait suffi. Je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. La vie t'aurait suffi.
C'était bien sûr Julien Doré sur France Bleu Armorique, 9h41.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Et au 02 99 67 35 35, c'est jusqu'à 10h, Jardin Bleu. C'est Françoise qui est à Orgères. Bonjour Françoise.
Bonjour. Moi je vous appelle parce que j'ai deux beaux lilas, mais les fleurs elles sont toutes en haut et en bas je n'ai que du bois.
Et vous voulez faire descendre des fleurs, c'est ça?
Ben oui, parce que moi je suis toute petite.
Ah, voilà.
Ça explique. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que le lilas, il faut le tailler. Et il faut le tailler tous les ans, juste après la floraison. Hein, quand les fleurs sont fanées, sont encore dans l'arbre. Donc, c'est vraiment juste après la floraison. Il faut vraiment le rebaisser systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, la fleur de lilas, elle est toujours au bout d'une branche. Hein. Mmh. Donc, sous cette branche, sous cette fleur, je veux dire, vous voyez des petits bourgeons par paire, hein, l'un à côté de l'autre, gentiment, qui sont le long. Et vous redescendez au moins deux ou trois bourgeons, s'il y en a trois, sous la fleur, de manière à obliger l'arbre à redescendre un petit peu. Et si vous faites ça tous les ans, vous allez voir d'un an sur l'autre, vous allez faire redescendre votre lilas, il va être plus dense, il va être plus petit, et il va être plus florifère.
Merci. Merci voilà. Pour vos bons conseils, et puis je vous souhaite une bonne journée.
Et bien nous aussi, on vous souhaite une bonne journée. Nous aussi, merci Françoise.
Merci,
bon dimanche. Isabelle à Rennes. Bonjour Isabelle.
Tous les deux.
Ouais, ça va?
Ça va très. Enfin, oui, ça va. Oui, ça va. Ça va. Je suis en béquille, mais bon, ça va.
Ah, vous sortez. D'accord. Bon, la glycine.
Parce que moi, j'ai une glycine que j'ai plantée il y a 4 ans et elle n'a jamais fleuri. Alors, je l'ai menacée, hein, pourtant, mais rien n'y fait, elle ne fleurit pas.
Faut pas la menacer comme ça.
Si, il faut de temps en temps, je pense que les plantes le sentent. De temps en temps, il faut leur dire si tu fleuris pas l'année prochaine, il faut leur donner un laps de temps quand même. Faut pas leur dire la semaine prochaine.
C'est ce que je lui ai dit. Donc cette année, j'attendais avec impatience et j'ai commencé à voir les petites feuilles arriver. Je dis, elle a pas compris.
Bon. Alors, il faut savoir que la glycine, déjà, c'est donc une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Donc si elle n'est pas au sud, elle a pas envie de fleurir. Bon. Alors, ça, c'est déjà réglé. C'est bien. La deuxième chose, c'est quand on la plante dans une terre riche, la terre peut être naturellement riche, même si on ne rajoute pas de choses dedans, elle va mettre plus de temps à se mettre à fleur que si on la plante dans une terre pauvre. Que la glycine fait partie de la même famille que le haricot, ça ne se ressemble pas forcément tout de suite, mais ou que le mimosa, c'est-à-dire ce sont des plantes qui sont capables de faire leur azote tout seul, comme des grands avec l'azote de l'air, donc faire leur nitrate tout seul avec l'azote de l'air, et donc si le sol est naturellement riche, ça les gêne un petit peu dans leur fonctionnement, donc la mise à fleur est un peu plus tardive. Donc si vous avez une terre qui est naturellement riche, ou si vous avez tendance à mettre peut-être un petit peu de compost à son pied pour que la faire mieux fleurir, etc. Faut pas faire ça. Et puis malheureusement, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Après, faut prendre son mal en patience. Elle va fleurir si elle est plein sud. Il y a pas de problème, elle va fleurir. Mais c'est peut-être que vous avez une terre qui est naturellement un petit peu riche. Il va falloir attendre qu'elle épuise un peu le sol avant de se mettre à fleur.
D'accord, il n'y a pas une question de taille trop sévère, trop tardive?
Non,
trop...
non,
La taille doit être sévère pour la glycine, hein, surtout au démarrage pour bien l'installer, pour bien l'architecturer. Et puis après, on taille donc toutes les branches, comme pour la vigne, hein, toutes les branches qui sortent, on les taille à deux yeux, de manière à vraiment que toute la sève n'aille que pour faire des fleurs. Mais je vous dis, elle a 4 ans, comptez encore un ou deux ans maxi, je pense.
Voilà. Bon, patience.
Un peu de patience.
Patience.
Oui, d'accord. Ben, je vais lui laisser 2 ans. Alors, je vais lui le dire, je lui laisse 2 ans.
Voilà. Chuchotez-lui des mots doux à l'oreille, ça va marcher.
Oui, au début, c'était gentil. Puis bon, l'année dernière, j'ai quand même mis un peu de pression.
Je comprends.
C'est normal.
Isabelle, bonne journée, bon dimanche.
Merci à tous les deux. Un bon week-end de Pâques à tous les deux.
Vous aussi. Joseph à Rennes. Bonjour, Joseph.
Oui, bonjour.
Votre question?
Alors voilà, moi j'ai une pelouse qui a été semée il y a environ 6 mois. Elle est assez belle, mais je suis envahi de pissenlits. Mmh. Alors donc, je me posais la question, quoi faire pour me débarrasser un peu des pissenlits?
Alors en fait, sur une jeune pelouse, dans la mesure où elle n'a pas eu le temps d'être suffisamment dense et forte et suffisamment haute, la concurrence avec le pissenlit est très forte. Alors ce qu'il ne faut surtout pas, c'est faire ce que vous avez fait, c'est quand la pelouse donc pousse et qu'on voit qu'en même temps que la pousse pousse, il y a des petites plantes de pissenlit qui poussent aussi, il faut les arracher au fur et à mesure. Il ne faut pas les laisser s'installer parce que sinon ils mettent en place un système racinaire très puissant et puis un pissenlit c'est un capteur solaire, ça s'étale et ça écrase tout le gazon qui est autour. Donc il faut vraiment, quand on sème une jeune pelouse, il faut vraiment traquer les petites plantes sauvages, les plus embêtante et plus agressive avec son petit couteau. Hein. On fait ça le matin à la fraîche si on aime bien avoir les pieds mouillés. Si on aime avoir les pieds au sec, on fait ça plutôt après la sieste de l'après-midi. Et vous enlevez donc tous les pissenlits et autres. Hein. Ça peut être du plantain, ça peut être... Il y a d'autres plantes, il y a toujours des graines dans le sol. Hein. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il y a toujours des graines dans le sol et qui ressortent. Le tout, c'est que quand la plante est jeune, elle est facile à enlever. Quand elle est bien installée, elle est difficile à enlever. Donc il faut vraiment, sur une jeune pelouse, il faut traquer les petites plantes. Et une fois que vous les avez traquées, si vous gardez votre gazon tondu suffisamment haut, c'est-à-dire 5 cm minimum. Et l'optimum en ce moment, on est autour de 6,5-7 presque, hein, parce qu'il commence à faire beau et que il faut les remonter tout doucement. Plus il fait chaud, plus il faut monter la hauteur de la coupe. Et là, vous allez voir que votre gazon va devenir plus concurrentiel que le pissenlit, va empêcher le pissenlit de se développer et les pissenlits vont disparaître. Mais il faut d'abord l'aider en allant les arracher un à un.
Et ben voilà.
Oui, d'accord, oui. Alors, les arracher, de toute façon, il reste toujours un petit bout dans le sol, mais je pensais, en les coupant profondément, ça devrait marcher, je pense, avec un couteau à grande lame.
Oui, avec un couteau à grande lame, ou alors on trouve dans les jardineries ce qu'on appelle des couteaux à désherber, c'est des espèces de gouges à asperges en fait. Et du coup, ça permet de bien descendre le long de la racine et d'extraire la racine d'un coup. Et sinon, comme c'est des jeunes pissenlits, vu qu'ils ont que 6 mois, vous avez un outil qui est fabriqué par, d'un pays du Nord qui s'appelle Fiskars, et qui est un outil qui est très bien fait, qui permet de désherber sans se mettre à quatre pattes. En plus, c'est quand même pas mal. Hein, donc ça permet de désherber debout. Par contre, à chaque fois qu'on arrache une petite plante, eh ben, faut remettre une petite poignée de terreau ou de compost et une toute petite pincée de graines à chaque fois pour que ça soit le gazon qui domine et pas le pissenlit.
Voilà. Et puis vous nous faites une petite salade de pissenlit, tout voilà, va bien se passer.
Avec des petits croutons et des œufs, c'est très bon.
Hein. Ça, c'est du bon. Ouais, merci, bon, oui. Joseph.
Très bien, je vous remercie beaucoup pour vos conseils. Merci
à vous, bon dimanche.
Au revoir, bon dimanche également.
Allez, on a Chantal à Mordel. Bonjour, Chantal.
Bonjour, Daniel. Bonjour, Philippe. Je vous appelle parce qu'hier matin, on parlait de récupération d'eau avec les esters.
Oui, tout à fait. Et on a parlé de l'eau de sèche-linge, c'est ça?
Oui, et moi je la récupère pour arroser les fleurs et j'aurais voulu savoir, parce que cette question n'a pas été posée ce matin, on peut la garder pour arroser les fleurs, et pas de risque.
C'est vrai qu'on se posait la question hier et je me suis dit, il faut qu'on pose la question à notre expert jardinage, Philippe, est-ce que c'est bon l'eau comme ça du séchage du linge?
Elle est mieux pour mettre dans le fer à vapeur, ouais. Oui. Dans les batteries, si peut, quoi que maintenant il y a des batteries sans entretien, que pour les plantes, parce qu'en fait c'est une eau d'évaporation, donc c'est vraiment de l'eau quasiment pure, avec en plus éventuellement des petits résidus de
détergent,
détergent, mais il y a plus de sels minéraux. Or, ce qui est intéressant dans l'eau aussi, c'est les sels minéraux. Mais de toute façon, les sels minéraux, il y en a dans le sol. Donc, le fait d'arroser avec n'est pas forcément mauvais. C'est parce que ça va permettre de diluer les sels minéraux du sol. Mais bon, voilà, en général, l'eau qui tombe du ciel, elle est pleine de sels minéraux, elle est pleine de petites poussières organiques, etc. L'eau du sèche-linge, c'est vrai qu'elle n'a pas tout ça, donc elle est moins intéressante, mais comme il ne faut pas la gâcher, l'utiliser-la quand même, quitte à la mélanger avec de l'eau de pluie, par exemple.
Voilà. C'est ce que je fais.
Et bien voilà.
Et bien c'est bien.
Vous voyez.
C'est super, vous avez la bonne technique. C'est parfait.
Et voilà, c'est pour ça que je posais la question pour tous les auditeurs.
Et mais c'est bien, c'est
super.
C'est super. Bonne réaction, Chantal.
Bon week-end de Pâques et à la prochaine. Au revoir.
À la prochaine, au revoir, avec Chantal. Plaisir. Sympa. Et puis Denise, allez, on va terminer avec Denise qui est à Bain-de-Bretagne. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est pour un rhododendron qui est magnifique, qui est en fleurs, rouge, et qui a des feuilles rouillées. Comme rouillé, alors est-ce que c'est dû au temps de cet hiver? Parce que l'année dernière, il n'a pas eu ce problème-là. Mais cette année, c'est quand même bien dommage. Je ne sais pas si je dois enlever les feuilles qui sont rouillées. Qu'est-ce que je dois faire avec?
Alors, ce que vous appelez feuilles rouillées, j'aimerais bien que vous me précisiez un petit peu la chose, la couleur, et puis savoir si c'est dessus, dessous ou les deux. C'est vraiment une couleur rouille-rouille.
C'est dessus. Dessous, je n'ai pas regardé. Je peux aller voir parce que je suis à côté.
Regardez dessous alors.
Je vais vous dire si
dans la foulée.
C'est la même chose.
En direct.
Alors, voilà. Oui, c'est dessous pareil.
D'accord. Et ces feuilles-là, elles sont en dessous sous les fleurs. Il y a des feuilles nouvelles
elles sont
au-dessus.
Sous les fleurs, exactement.
Mais il y a des feuilles nouvelles au-dessus.
Je ne sais pas s'il y a des feuilles nouvelles au-dessus.
Des feuilles nouvelles.
Oui.
Il y a des feuilles vertes au-dessus. Bon. Alors.
Il n'y a pas grand-chose.
D'accord, mais bon, il faut quand même savoir que les feuilles de rhododendron sont des feuilles persistantes, mais pas des feuilles éternelles. Donc,
oui.
Forcément, alors je crois que sur certains rhododendrons, le maximum, c'est une durée de vie de 5 ans, mais en moyenne, c'est une durée de vie de 2 ans. Donc, régulièrement, le rhododendron, au moment où il fleurit, comme juste après sa floraison, il va démarrer une nouvelle feuillaison, il perd ses feuilles les plus vieilles. Et donc, à ce moment-là, ces feuilles les plus vieilles, elles prennent une coloration jaune ou brune avant de tomber. Donc, c'est le cas, c'est pas gênant. Hein. C'est les vieilles feuilles qui tombent et dès que la floraison va se terminer, vous allez avoir une nouvelle pousse qui va arriver et qui va vous ramener tout un tas de jolies feuilles bien vertes, vert tendre. Donc, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pour ça que je voulais vraiment avoir la notion de la couleur parce qu'il y a des maladies qui ont des couleurs bien spécifiques, mais c'est pas le cas a priori.
Voilà, donc voilà, assurez Denise.
C'est juste la chute physiologique. Une question. J'ai plein de pucerons dans mes rosiers.
Bon, je ne sais pas si on va avoir une prochaine fois, vous nous appelez.
On va dire très très rapidement de l'eau savonneuse et hop. Et s'il y a des petites larves de coccinelle en train de les manger, vous ne mettez même pas l'eau de savonneuse, vous laissez les larves de coccinelle travailler tranquillement.
Voilà.
D'accord.
Et ben voilà, Denise.
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
Et avec toutes les bons conseils que vous nous donnez.
Hein. Ben oui, c'est que des bons conseils. C'est ça fait du bien hein, quand même, les bons conseils.
Oui, ça fait du bien au moral aussi, parce que c'est vrai qu'on se donne beaucoup de mal pour nos plantes.
Et ben oui.
Et puis on n'a pas toujours le bon résultat qu'on voudrait.
Et ben
bon, merci beaucoup et félicitations pour tout ce que vous faites.
Oh ben voilà, on aime ça. Merci.
Et je souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.
Nous aussi, voilà.
Merci beaucoup et c'est un plaisir tous les dimanches à vous écouter.
Eh ben écoutez, hein, Philippe, vous êtes le jardinier bonheur. Hein, ça fait
plaisir.
Oui, mais de toute façon, le jardinage, c'est...
la nature, on sait l'apprécier.
Voilà, merci beaucoup Denise. Bonne journée. On va bientôt se quitter. Peut-être un petit conseil avant de nous dire au revoir. On part peut-être en musique et puis on va se dire au revoir.
Ce week-end de Pâques, il y a pas grand-chose de prévu pour les jardins. À part aller chercher les œufs, c'est déjà pas mal. Et puis par contre, pour la semaine prochaine, il y a un week-end à Redon. Hein, c'est Végétal Passion à Redon pour ce week-end de présidentiel.
mais j'aurai le plaisir le samedi et le dimanche de vous donner tous les conseils sur pour un gainage correct. Et puis le dimanche, je donnerai une conférence, dites-donc.
C'est bien.
Donc,
ça.
Samedi, dimanche à Redon pour Végétal Passion.
Bon, eh ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir. C'est bien. Il fait des vers, il rend tout le monde heureux.
Et c'est des vers de terre en plus.
C'est ça, et pas ceux qu'on boit non plus, quand même. Merci en tout cas. Passez un bon dimanche, Pascal. Et puis donc, rendez-vous dimanche prochain, Philippe, alors.
Mais avec grand plaisir, joyeuse Pâques à vous.
Au revoir.
France Bleu.
Sur France Bleu Armorique, du lundi au vendredi, Michel Cabaret, le directeur de l'espace des sciences de Rennes, répond aux questions des petits bretons.
Ah non, Yann, tu me la refais, c'est beaucoup plus rapide maintenant.
Ok, on y va. Sur France Bleu Armorique, du lundi au vendredi.
Les bactéries sont des petits organismes présents.
La plupart des araignées avalent leur toile lorsque
sa glace passe de l'état solide à
une minute pour tout comprendre à la science. C'est la science en question à 11h40 et 17h20 sur France Bleu Armorique.
L'esprit de la Bretagne sur France Bleu Armorique.
Le ciel est bleu. Pourquoi on baille? Pourquoi un bateau ça flotte et pas un caillou?
Tout le monde se pose ces questions, même les extraterrestres, même vous. Donc, ne ratez pas notre jeu avec des familles déchaînées, des humoristes hilarants et l'effet Bonaldi.
Vous pouvez répéter la question. Le jeu inédit et déjanté présenté par Alex Good, demain à 20h55 sur France 4. Canal 14.
Menuiserie, cuisine.